fête de la supply chain avec Euralogistique CCI Hauts-de-France, l'asso Supply Chain Plus en prime sur Radio Supply Chain.
En direct du Métaphone de Oigny, près de Lille, dans les Hauts-de-France, et nous assistons au colloque fête de la supply chain. C'est la première édition avec Antonio Cardozo de Radio Supply Chain. Antonio, bonjour.
Bonjour Peggy.
Et on accueille Fabien Béclin. Bonjour Fabien.
Bonjour Peggy.
Vous êtes directeur opérationnel Norlink. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous resituer pour ceux qui ne connaissent pas et nous présenter Norlink? C'est une fédération?
Bien sûr, oui, tout à fait. C'est une fédération d'associations et d'autres acteurs tels que Euralogistique, dont la mission principale, c'est de faire la promotion des modes massifiés que sont le ferroviaire et le fluvial pour rendre les chaînes de transport et les supply chains les plus vertueuses possibles dans tous les sens du terme.
Et le ferroviaire et le fluvial, c'est important ici dans les Hauts-de-France, c'est bien développé.
Tout à fait, oui. On est une région extrêmement bien dotée, aussi bien en infrastructure actuelle que future, avec le canal qui va s'ouvrir dans les années qui viennent. Et effectivement, on est déjà sur des parts modales très importantes.
Une question, on a une idée de la date d'ouverture du canal ou pas encore?
2028. Les travaux, là, je crois, la semaine dernière, on commençait, enfin, les coups de pioche, ça y est. En tout cas, les travaux préparatoires ont largement commencé depuis très longtemps. Et je me demande si je n'ai pas vu que, effectivement, les premiers coups de pioche avaient été donnés.
Commencé.
Oui, tout à fait. Secteur 1, donc plutôt au sud encore de notre région.
D'accord.
Donc l'idée, c'est de faire, en fait, des Hauts-de-France, le hub portuaire et logistique de l'Europe du Nord.
Tout à fait, oui, absolument. C'est ça. L'idée, c'est notamment d'arrêter d'être un territoire de transit. On voit beaucoup de marchandises passer sans s'arrêter.
C'est ce qu'on se disait quand on vient de Paris, qu'on prend l'autoroute 1. Généralement, on voit énormément de camions qui ne font que traverser pour aller du côté de Anvers et de Rotterdam.
On a fait une étude, on a calculé ou on estime qu'il y a 90 millions de tonnes qui ne font que passer sur notre territoire par an.
Donc il est temps de leur dire de s'arrêter et de partir d'ici ou d'arriver ici.
Voilà, ou en tout cas d'utiliser des modes massifiés et qui ne passent pas uniquement par la route.
Alors, on va parler environnement. La prise de conscience, elle est là hein, pour tout le monde. On sait qu'il faut que la logistique, que les transports soient plus verts, sans que ce soit un coût supplémentaire trop exorbitant. La solution, les entreprises, les collectivités ne l'ont pas forcément. Quelles stratégies et quelles actions sont mises en place en fait, dans les Hauts-de-France pour réussir cette transition environnementale?
Alors, j'ai pas prétention de parler de tous les sujets, mais on a développé une sorte de stratégie spécifique au fluvial, puisque c'est chez nous un mode qui est très important, notamment avec le futur canal. Il faut qu'on soit déjà prêt pour cette échéance. Et quand on parle de 2028, on a intérêt à s'y mettre maintenant, parce que c'est pas
c'est demain. Hein.
C'est pas le 31 décembre 2027 qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment on fait. Donc clairement, il est nécessaire et impératif de réduire l'empreinte environnementale, donc spécifiquement du transport fluvial. Et là, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, parce qu'on a, on se trouve très facilement confronté au dilemme de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'on essaye de forcer l'offre de carburant alternatif ou disons d'offres alternatives, ou est-ce qu'on attend que la demande se naisse, ou est-ce que donc finalement le parti que nous avons pris, c'est vraiment de se placer comme un acteur de coordination et faire avancer tout le monde en même temps pour que l'écosystème progresse en même temps et que finalement l'offre et la demande arrivent à peu près au même moment.
Au niveau des actions, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé à faire?
Concrètement, on a fait, d'abord mis une plateforme d'échange, créé cet écosystème qui n'existait pas encore, remettre tous les gens autour de la table, les faire se rencontrer, échanger, développer les différentes idées qui pouvaient traîner dans des tiroirs d'études, etc., pour commencer vraiment à avancer concrètement. Et notre bassin, il est un petit peu spécifique. D'abord parce qu'il est canalisé, ça a un impact en termes de logistique, de transport, notamment fluvial. Et il est connecté avec nos voisins du Nord. Il le sera connecté plus tard avec le bassin de la Seine. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas, réfléchir en vase clos. Il faut qu'on se tourne vers nos voisins pour déjà voir avec eux comment ils font, qu'est-ce qu'ils vont réfléchir. On a une autre spécificité avant de passer aux actions concrètes, c'est que la flotte qu'on a sur le bassin, elle est très hétérogène et peut être considérée comme vieillissante.
Ça veut dire qu'il faut la renouveler?
Ça veut dire que le renouvellement est un vrai sujet, mais ce n'est pas le seul. Et c'est notamment à travers nos actions qu'on a découvert ça, ou en tout cas qu'on a découvert des pistes de solutions pour toucher cette flotte qui est vieillissante, dont les capacités d'investissement sont relativement faibles, voire même très faibles, puisque c'est la profession de batelier est une profession très artisanale, dont on n'a pas une multinationale derrière qui peut allonger des millions pour acheter un nouveau moteur, par exemple, alors que l'unité, en l'occurrence dont on parle, va, elle, valoir 100-200 000 euros maximum. On ne peut pas modifier là. Donc il y a vraiment vraiment une réflexion un petit peu globale. Alors j'aime pas ces grands plans d'action globaux où on réfléchit tout en même temps, etc. Mais là, sur ce type de projet, c'est nécessaire. Et après, on va aller descendre dans le détail. Avant les remotorisations, on ne pourra pas tout remotoriser. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de chantier naval, spécifiquement fluvial sur notre territoire, qui peut accueillir des grands bateaux. Donc même si on avait tout l'argent, même si on décidait, on ne pourrait pas le faire. Donc il faut qu'on travaille sur la transition, une période de transition qui va être longue, forcément.
Où est-ce que ça peut se faire alors ?
Aujourd'hui, les chantiers navals fluviaux, spécifiquement fluviaux, sont en Belgique, aux Pays-Bas.
D'accord.
On a des formes qui peuvent être utilisées dans nos ports maritimes. Calais, il y en a une, à Dunkerque, il y en a une. Mais si on veut faire le massivement, ça va forcément, on a besoin de
d'avoir une infrastructure, une vraie qui puisse le faire.
Donc il faut qu'on regarde, ça peut être un vrai sujet. On réfléchit aussi là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau chantier naval ? C'est pas impossible. Il faut voir est-ce que c'est pertinent économiquement. Toutes ces questions se posent. Par ailleurs, les opérateurs, on le sait, les capitaines, les matelots sont déjà extrêmement économes en termes d'énergie. Puisque c'est directement ce qui est consommé en énergie, c'est directement ce qu'ils n'auront pas en bas de page, comme on dit.
Ouais.
Donc ça, tout ce contexte-là rend le sujet particulièrement difficile. Et donc finalement, on a fait, par exemple, une étude sur les biocarburants. Ouais. Les biocarburants pour le fluvial, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'il y a une logistique d'approvisionnement ? Parce que c'est simple techniquement, entre guillemets, et il suffit de faire le plein avec ce type de carburant. Il y a presque que deux filtres à changer et puis ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on n'a pas la logistique. Le prix est encore supérieur à ce qui se fait au niveau du GNR. Et vous le disiez tout à l'heure, Peggy, le différentiel de prix est un impact très important.
Bien sûr.
Il me semble que les utilisateurs ne sont pas encore prêts à payer de manière importante un surcoût pour ça. Ça évolue. Il y a des contre-exemples, évidemment, mais de manière structurelle, le marché n'est pas encore prêt. Parce que c'est comme ça.
Surtout quand on parle d'un artisan qui doit faire attention à toutes ses dépenses.
Exactement. Oui.
Et aujourd'hui, il faut allier les compétitivités aussi bien opérationnelles qu'environnementales et économiques.
Tout à fait.
C'est important.
Et ça ne fonctionnera pas l'un sans l'autre, parce qu'il y en a trois. Si un des piliers, un des trépieds n'est pas là, ce sera bancal, ça ne tiendra pas dans le temps de manière massive. C'est-à-dire qu'il y a toujours... On a toujours des contre-exemples. Il y a des industriels ou des distributeurs qui ont fait des expérimentations, qui font des flux, qui fonctionnent, etc. C'est plus cher, d'accord, ils le prennent. C'est le budget peut-être com qui va payer la différence parce que ça permet de faire des opérations.
Bien sûr.
Mais si on veut que ce soit massif et structurel, ça doit tenir avec les trois piliers doivent être là.
Vous nous parliez de certains diagnostics. Vous en avez fait plusieurs, hein, des diagnostics énergétiques à bord de 5 unités fluviales pour mieux connaître ces fameuses zones pertinentes dans chacune des énergies alternatives. Les conclusions, mis à part ce que vous venez de nous dire ?
On a fait ces diagnostics parce qu'on s'est rendu compte que, contrairement au mode routier où on semble avoir, et c'était encore le sujet d'un colloque d'hier, on semble avoir une idée assez précise de la pertinence de chacune des énergies. On sait qu'un camion électrique, au-delà de 300-350 km, ça ne va plus fonctionner de manière très opérationnelle. Le gaz, on est sur 500, l'hydrogène, pareil à peu près. Aujourd'hui, on a cette connaissance assez peu fine pour le fluvial en se disant « Bon, la courte distance, ce sera de l'électrique. Mm-hmm. » Mais la courte distance, c'est combien en fluvial ?
C'est
10, c'est 5, c'est 100.
Et c'est combien ?
Et ben aujourd'hui, on ne sait pas.
Ah oui ? Et comment ça se fait qu'on ne sait pas ? On ne peut pas le chiffrer, ça ?
Justement, pour essayer de répondre à ces questions-là, on a fait ces 5 diagnostics énergétiques. Et en fait, les flux sont tellement hétérogènes. Les unités sont tellement différentes. Les types de navigation sont tellement différents. Si vous faites 10 km sans écluse, C'est complètement différent que si vous en faites 100 avec 10 écluses.
D'accord.
Les appels de puissance nécessaires sont délirants pour déplacer une unité qui pousse 3000 tonnes.
Ouais.
Donc à chaque fois que vous allez devoir vous arrêter et repartir, ça va complètement modifier votre profil énergétique. On commence à avoir des réponses. On sait qu'au-delà au-delà d'un mégawattheure de consommation sur un aller-retour ou sur un aller qui laisserait assez de temps pour recharger, l'électrique va avoir beaucoup de difficultés à le faire. Mais ce qu'on a notamment aussi découvert à travers ces diagnostics énergétiques, c'était comment était consommée l'énergie, où, pour faire quoi à bord. On a regardé la propulsion, on a regardé tous les moteurs auxiliaires. Il y a beaucoup d'autres sources de consommation, des propulseurs d'étrave, des pompes de chargement, de déchargement, des pompes de ballastage. Et tout ça, finalement, c'est des choses qu'on a réussi à chiffrer et que, sur lesquelles on sait maintenant qu'il y a des vrais éléments à pousser, notamment sur les auxiliaires. C'est vraiment ça une des conclusions de notre étude. Alors on pensait à tort avoir les clés, une grille qui dirait bah voilà, si vous êtes dans
ce
cas-là,
dans cette case-là, c'est ça. Ouais.
Alors on était peut-être un petit peu naïf. En tout cas, on sait maintenant qu'on n'a pas ces réponses-là.
Mais alors comment on fait ? La solution ?
Les remotorisations semblent relativement compliquées pour les unités déjà existantes, pour tout un tas de raisons, pour des raisons d'opération. Pendant 3-4 mois qu'on va faire des travaux, la personne à bord, qu'est-ce qu'elle fait ?
Oui.
C'est des gens qui...
C'est leur outil de travail, technique.
C'est leur outil de travail, c'est leur salaire. Comment on fait ? Il y a plein de choses. Les flux, les unités sont pas, fonctionnent 24/24, quasiment 365 jours par an. Et les à bord, ils prennent jamais de vacances, ou alors ils trouvent un cousin qui peut venir pendant la semaine de vacances, la seule semaine de vacances qu'ils prennent à l'année. Donc si on l'arrête pendant 3 mois, le chargeur n'est pas servi. C'est impossible dans un processus industriel, comme on le voit dans le port de Dunkerque ou à Lille, d'arrêter, d'expédier pendant 4 mois, c'est pas possible. Donc il y aura un vrai sujet autour de la remotorisation des unités existantes, mais pour ces unités-là, pour lesquelles ça va être difficile opérationnellement de le faire, il y a des pistes qu'on a découvertes grâce à ces diagnostics énergétiques autour des moteurs auxiliaires. Les propulseurs d'étrave consomment beaucoup d'énergie, on ne le savait pas assez. Et ce sont des investissements qui sont beaucoup moins lourds, mais qui peuvent aller, sur les 5 qu'on a étudiés, on est entre 11 et 27% d'énergie totale consommée par les propulseurs d'étrave. C'est-à-dire qu'en changeant, entre guillemets, ces deux petits moteurs, ou même ce petit moteur avec deux hélices, eh bien, finalement, on pourrait arriver à économiser, suivant le cas, entre 11 et 27% d'énergie.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est même énorme, parce qu'aujourd'hui, c'est du diesel. Hein. Mmh.
Ouais.
C'est le même réservoir, ou c'est même un autre réservoir, puis on fait tourner les moteurs. Et donc, il nous semble que pour ces unités qui sont anciennes, pour lesquelles on aura des difficultés à changer de moteur, parce que ce n'est pas conçu à l'intérieur pour avoir un autre type de moteur, il y a ces pistes-là à regarder. Le branchement à quai pour les chargements, déchargements, les trafics d'huile, si on veut, sont des pompes. On est forcément à quai pour décharger. On met une prise, c'est facile à dire. Hein. on met simplement une prise, on branche le
et
bateau.
Boum, c'est bon, ça charge.
Et hop, ça décharge sur le réseau. Mais en tout cas, ça nous semble beaucoup plus facile d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue financier. Les investissements sont beaucoup moins lourds, donc beaucoup plus faciles à rentabiliser.
Donc finalement, la réponse un peu à tout ça, c'est de se dire qu'il n'y aura pas un changement brutal d'énergie, mais plutôt un mixte, comme on dit. Un mix énergétique qui permet... Bon, on va continuer à utiliser du diesel, hélas, mais peut-être dans des proportions moindres.
C'est ça.
Et ce qui permettra quand même de réduire un peu l'impact sur écologique. Voilà.
Tout à fait.
On n'a pas de solution autre pour l'instant.
Il n'y a pas de solution magique. Et en fait, ça va être la croissance du fluvial qui va amener finalement de nouvelles unités. Les anciennes, on va les changer au fur et à mesure, changer les moteurs auxiliaires, etc. Donc ça va venir réduire. Les nouvelles unités qui vont desservir le canal Seine-Nord, etc., seront forcément conçues
de façon
plus écologique, beaucoup plus économique. Donc finalement, c'est sur le temps long. Notamment parce que le temps de rotation d'une flotte est extrêmement long.
Ouais.
On a aujourd'hui des unités sur le bassin qui ont vu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
La deuxième. Ah oui, ça m'a fait peur.
Mais même, ça reste long, c'est incroyable.
Ça fait 80. Voilà, on approche des 80 ans. Donc, alors évidemment, il n'y a plus grand chose d'origine à bord, mais la coque finalement a été construite à ce moment-là.
Ouais.
Ça veut dire qu'en termes d'optimisation, de design, etc.,
il y a des choses à faire
aussi, des choses qui sont nécessaires.
pour conclure, on peut dire que le fluvial, c'est l'avenir, malgré tout ?
Bien sûr. En tout cas, le fluvial...
Pour le transport de masse, oui, je pense.
Ouais. Ouais, tout ce qui va être industriel, vrac, toute une partie du transport combiné des conteneurs vont aussi avoir leur place sur du fluvial.
Oui,
c'est
parce
évident.
Que les entreprises ont cette volonté aussi, d'un point de vue comme, de communiquer sur le fait qu'ils utilisent maintenant des transports plus green,
plus doux,
plus respectueux de l'écologie, de l'environnement. Et donc, massifier sur du fluvial, même si ça prend plus de temps, ils le feront.
Oui. Et puis, il y a beaucoup de grandes villes, Lille en est une, Paris évidemment aussi, qui ont un fleuve quasiment au cœur de leur centre-ville. Et donc, on peut amener plus facilement aujourd'hui peut-être des barges ou des unités fluviales au cœur de Paris et de Lille, par exemple, que des wagons, des trains. Mmh. Donc on peut imaginer des chaînes logistiques ferroviaires jusqu'à l'entrée de la ville ou jusqu'à une plateforme comme Dourges ici, par exemple, et une reprise fluviale urbaine, presque quasiment, de desserte urbaine qui
pour
va avoir un haut cadencement. Pour venir toucher le centre-ville et puis après on
c'est fort possible.
Des vélos cargo. Alors là,
on a des expérimentations comme ça en ce moment justement.
Oui, tout à fait. La barge qui s'appelle Zoulou fait ce genre de choses. Elle était il n'y a pas si longtemps au port de Lille. On voit avec des entrepôts spécifiques comme Urbi également à Lille qui dessert la ville avec de manière hyper hyper douce. Voilà, je pense que le fluvial a toute sa part à prendre là-dedans.
Eh ben, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour la suite. Et il y a encore plein de choses à développer, mais vous en avez déjà développé beaucoup. Je rappelle, Fabien Béclin, vous êtes directeur opérationnel Nordlink. Merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Merci beaucoup de l'invitation.
Merci, à bientôt.
Faites de la supply chain avec Euralogistique CCIO de France, l'asso Supply Chain Plus, en prime sur Radio Supply Chain.